9 septembre 1996, trois jours avant Rosh Hashanah, cours de Rav Eman sur Shir HaShirim, au centre du Frénois.
On va traduire. Ad Shehamelech. Ad veut dire jusqu'à ou tant que. On va traduire. Tant que. Shehamelech que le roi. Bim Sibo. Le Siba. C'est la fête. L'invitation. Nirdi. Merde, c'est un parfum. Nirdi, mon parfum. Nathan Recho a donné, Nathan notamment a donné, Recho, son odeur. Alors on va essayer de voir en clair hein, de quoi ça parle. On recommence la traduction. Ad Shehamelech Bimsibo. Alors que le roi était Bim Sibo dans sa réunion, dans sa fête, Nirdi, mon parfum, Nathan Recho, a donné son odeur. Ici, il s'agit de la réponse du peuple juif à Dieu. Puisqu'on a vu dans les versets précédents qu'il s'agissait de la parole de Dieu vis-à-vis du peuple juif. Si on prend la traduction de Rashi, qui en vérité est la traduction de la Gemara dans le traité de Shabbat, Ad Shehamelech Bim Sibo, alors qu'on était au milieu du don de la Torah, puisque les tables de la loi n'avaient pas encore été données, mais Dieu avait déjà été apparu au Sinaï. C'est ça, Ad Shehamelech Bim Sibo. On était au milieu du don de la Torah, la fête entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Nirdi, mon parfum, sous-entendu un mauvais parfum, Nathan Recho a donné son odeur, c'est que le peuple juif a fait le veau d'or. Ça, c'est la traduction de Rashi ici, en citant la Gemara. C'est-à-dire que le peuple juif s'adresse à Dieu en lui disant que il a toute confiance en lui, puisque même au moment des dons de la Torah, le peuple juif a fauté de cette faute du veau d'or. Et malgré tout, ça s'appelle Nirdi, mon parfum, Nathan Recho. Il a donné son odeur, c'est-à-dire j'ai montré de quoi j'étais capable. Et malgré tout, Dieu n'a pas abandonné le peuple juif. On va voir que ce n'est pas évident, puisqu'il y a un verset à la fin du 32e chapitre de Shemot, où Dieu dit « Ubiyom pokdi ufokadati » Motamo biyom pokdi, le jour où je les punirai aussi pour la faute du veau d'or. De là, la Gemara dit dans le traité de Sanhedrin, il n'y a pas de punition qui vienne sur le peuple juif, où à l'intérieur de cette punition, on ne paye pas aussi la faute du veau d'or. Donc on est obligé de relativiser quand même les choses. Mais on va dire que l'approche de Dieu vis-à-vis du peuple juif, la relation qui existe entre Dieu et le peuple juif, n'a pas été affectée par le veau d'or. Ça ne veut pas dire que le peuple juif peut faire ce qu'il veut et que ça ne changera rien à ses relations. Mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que, à l'inverse de l'homme, et en ceci, un homme doit copier sur la conduite de Dieu, on ne doit pas agir par réaction. Quelqu'un me fait du mal, je me sens des droits de lui rendre l'appareil. Alors que je peux très bien me situer au-dessus, et que les dispositions que j'ai vis-à-vis de lui ne soient pas affectées par ce que j'ai pu percevoir de bien ou de mal chez lui. On va dire pire que ça. C'est que la liberté pour l'homme, elle n'est possible que s'il arrive à se situer dans l'action et jamais dans la réaction. Parce que celui qui se révolte, lui aussi, est en réaction. Donc lui aussi n'est pas en action. Ça veut dire que non seulement celui qui fait ce que les autres veulent qu'il fasse est en réaction et non pas en action, mais même celui qui fait le contraire, lui aussi est emprisonné par la volonté de l'autre. La Gemara dans le traité de Shabbat l'exprime en disant « Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné, Anelavim venamolvim, shomim cherpatam venamushivim. » Celui qui est capable, mais la vie, d'être blessé, sans blesser l'autre. Shomim cher patam, celui qui est capable d'écouter ce qui ne va pas chez lui, veinam meshivim, sans répondre à l'autre. La Gemara continue, elle dit osim me'ava usmechim beisorim. Motamo osim me'ava, ça veut dire ils agissent avec don, avec confiance, c'est-à-dire pas par rapport au rapport de l'autre avec eux, ou smerim beisurim, ils peuvent rester heureux beisurim dans les tourments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme est obligé de rester maître de la situation et de ne jamais agir en réaction dans un conflit. D'où je le vois de cette attitude de Dieu vis-à-vis du peuple juif. C'est que l'histoire a continué, bien que il s'agisse d'un acte grave. On va essayer de voir quel est cet acte grave. Et malgré sa gravité, et malgré le moment qui était très mal choisi, puisque c'était le moment du don de la Torah, ça n'a pas affecté les relations entre Dieu et le peuple juif. On a dit que ça avait quand même affecté, puisque chaque fois que le peuple juif s'attirera dans l'histoire une punition de la part d'Akadosh Baruch Hu, il y aura quand même une partie pour ce vaudor, et on va essayer de comprendre pourquoi. La faute du vaudor, d'après nos sages, ce n'est pas une simple faute de Avodah Zara, d'idolâtrie, où on a construit une idole, et on a décidé de lui donner un pouvoir, de lui attribuer un pouvoir surnaturel. C'est pas ça du tout. C'est que Moshe Rabbeinu, au moment du don de la Torah, était monté sur le Sinaï pour 40 jours. Le 40e jour, il n'était pas redescendu. La Gemara explique comment ils se sont trompés de l'heure. C'est pas notre propos maintenant. Mais finalement, le peuple juif avait une question. On leur a dit 40 jours, les 40 jours sont écoulés. On ne revient pas avec l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que Moshe Rabbeinu, de même qu'eux n'avaient pas pu supporter le contact du don de la Torah et n'avaient pas pu entendre plus que deux commandements, que Moshe Rabbeinu aussi, il n'avait pas pu rester 40 jours sans manger et sans boire sur le mont Sinaï, et qu'il était fatal qu'il ne revienne pas. Ils ont donc décidé de remplacer Moshe Rabbeinu Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? Le Ramban Nachmani l'explique que chaque fois dans l'histoire du peuple juif, il y avait eu un guide. Il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, ensuite Yosef, ensuite Moshe. Chaque fois, quelqu'un était là pour être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et ils avaient compris que était arrivé le jour où l'intermédiaire ne serait plus un homme, mais pouvait être n'importe quel objet. Pourquoi ont-ils choisi le Hegel, le veau? Parce que, dit le Ramban, l'emblème de Yosef, celui qui les avait fait rentrer en Égypte. Donc ce par quoi ils devaient aussi sortir d'Égypte, c'était le chor, le bœuf, et que par là ils voulaient montrer qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire que l'homme, au moment où Dieu ne choisit plus d'intermédiaire entre lui et le peuple, c'est à l'homme de choisir un intermédiaire. Pourquoi choisir un homme dont on ne sait pas ses capacités? On va choisir la matière qui peut être capable aussi de guider le peuple juif vers la terre promise. Donc ils pensaient qu'en mettant ce veau devant eux dans le désert, Dieu les conduirait de la même façon que lorsque Moshe Rabbeinu allait devant eux. On peut discuter pour savoir si il y a toujours besoin d'un intermédiaire. Est-ce que l'intermédiaire doit être humain? Comment est-ce que la relation entre Dieu et l'homme peut passer? Est-ce que l'homme peut choisir cette relation? Est-ce qu'elle peut passer par la matière? Mais dit le Ramban, le véritable problème du veau d'or, c'est ça. C'est d'avoir trouvé, après avoir cherché, une solution, alors que Dieu leur avait promis que Moshe Rabbeinu les amènerait jusqu'en Eretz Israël. Donc le véritable problème du veau d'or, ça n'est pas un problème technique de savoir s'il y a faute dans le fait de savoir si la matière peut être intermédiaire entre Dieu et l'homme, ou alors il faut que ce soit un humain qui soit l'intermédiaire. C'est pas ça le problème du veau d'or. Le problème du veau d'or, c'est quelle est l'attitude adoptée lorsqu'on se trouve devant une carence, entre parenthèses, de la part d'Akadosh Baruch. Il y a deux possibilités. Il y a l'action et la réaction. La réaction, c'est de dire, puisque le bon Dieu m'abandonne, alors je vais me débrouiller tout seul. L'action, c'est de dire, Dieu ne m'a pas abandonné, bien que je ne sache pas quel est le type de relation que je peux établir maintenant. Mais je ne vais pas prendre en main les choses moi-même en changeant mon attitude qui était l'attitude précédente, en réaction à un événement qui peut être incompréhensible, qui peut être difficile à digérer, mais qui après tout n'est qu'un événement. En yiddish on dit, on ne meurt pas d'une question. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il avait une question. On peut vivre avec une question. Maintenant, commencez à voir quel est le parallèle entre notre verset et la faute du veau d'or. Hachamel Abim Sibo Nirdi Nathan Rico. Que Dieu n'agit jamais en réaction. C'est-à-dire que l'idée première, elle est assez forte pour se mesurer à n'importe quel événement. Et on n'est pas obligé de réagir, c'est-à-dire de changer d'attitude à cause de l'événement, à cause de la question, à cause du problème. Et l'attitude du peuple juif qui était l'attitude inverse. Maintenant, on va comprendre ce qui est écrit dans le verset où Yom Pok Diou Fokadeti. Il n'y a pas de faute où il n'y a pas une résurgence de la faute du Vaudan. Chaque fois qu'il y a faute de la part du peuple juif, il y a à l'intérieur un petit peu de la faute du Vaudan. Qu'est-ce que c'est la faute du Vaudan? C'est que on n'est pas capable de faire face à une situation en la transcendant, mais on est obligé de se défendre, on est obligé de croire qu'en faisant face à l'événement et en maîtrisant l'événement, en abandonnant l'idée première, on va trouver la solution. Faute, il s'agit toujours de quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Au fond, il y a toujours une petite colère qui est « j'arrive pas à faire, alors je fais autre chose. Je ne peux pas faire ceci, alors je fais autre chose. » Le fond de la faute elle-même, n'importe quelle faute, vient du fait que je n'arrive pas à me mesurer avec une agression de l'extérieur. Et à ce moment-là, je réagis, c'est-à-dire que je me réajuste et je fais front. Donc, je suis manipulé, donc je suis victime de l'agression extérieure ou de l'événement. Tout celui qui faute, c'est qu'il s'est mis dans une situation de victime par rapport à la difficulté. S'il était resté dans la situation de son idée première par rapport à la difficulté, il n'aurait pas pu admettre un changement d'attitude, donc il n'y aurait pas eu faute. Dans chaque faute, il y a une résurgence du problème du vaudan. Il faut que je trouve la solution, il faut que je m'en sorte. Ah, on ne peut pas s'en sortir de la meilleure façon, on va s'en sortir d'une autre façon. Ne pas s'en sortir, c'est quelque chose qui est difficile. De là vient la faute. Ici, ce que le peuple juif est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que si eux ne savent pas agir comme ça, lui sait agir comme ça. Chaque fois que les Chachamim nous révèlent de l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est pour que l'homme comprenne quelle doit être sa propre attitude. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre ici. C'est en plus qu'on est à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Alors, on doit essayer de comprendre un petit peu plus loin, parce que ça a un rapport avec le chauffard. Vous allez me dire, quel rapport avec le chauffard? Il y a trois significations dans le chauffard que nous donnons au moment de la Amida de Moussaf de Rosh Hashanah. On y parle, suivant l'histoire, le premier Aïn, le premier bélier, c'est l'histoire de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Le deuxième chauffard dont on parle, c'est au moment du don de la Torah. Le col à chauffard, au lech, le chazek mod, il y a eu le son du chauffard. Le troisième dont on parle, c'est ce qu'on appelle le chauffard chez le Mashiach. Veaya Hashem le melech al kol haaretz, le jour où Hashem sera reconnu sur toute la terre. Le début de l'histoire du peuple juif, jusqu'à la fin du peuple juif, en passant par le don de la Torah. Il y a trois chauffards. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le chauffard. Vous savez que la Amida du Moussaf se sépare en trois. On sonne trois fois le chauffard. Une fois, c'est Zichronot. Zichronot, ça veut dire le souvenir. Rappelez-moi le sacrifice d'Israël. Une fois, c'est Shofarot, le son du shofar qui a été donné au Mont Sinaï. Et une fois, c'est Malchuyot, le fait que le peuple juif reconnaisse Dieu comme étant celui qui dirige le monde, chose qui sera reconnue universellement par la venue du Mashiach. Qu'est-ce que c'est que le premier shofar? Premier shofar, l'histoire est connue. Au moment où Dieu a dit à Abraham, Al tashlech yadcha el anar, ne touche pas Yitzhak. À ce moment-là, il a levé les yeux, il a vu Aïl Netraz Basrach Bekarnav. Les cornes du bélier étaient emmêlées dans les buissons. Et il a pris ce bélier et il l'a amené en sacrifice, Tachat à la place, Yitzhak Beno, de Yitzhak son fils. De là vient l'expression des Chachamim que Afara Tzabur al Gabe Amisbeach, la cendre du bélier qui était déposée sur l'autel, en vérité, on l'appelle Afaro chez Yitzhak. C'est la cendre d'Yitzhak et non pas la cendre du bélier. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Yitzhak était bien vivant. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'expression Afaro chez Yitzhak, la cendre d'Yitzhak? On a déjà parlé souvent de la pensée et de l'acte. Nous, nous vivons dans le monde de l'action, qu'on appelle le Olam HaMaaseh. C'est pour ça que dans la Amida de Rosh Hashanah, on dit « Ze Hayom Trilat Maasecha » le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du début du Maaseh, de l'action. C'est le jour où le premier homme est né. Le jour de Rosh Hashanah correspond dans le calendrier au sixième jour de la création. Ze Hayom Trilat Maasecha. Voici le jour du début de l'action. Maaseh, nous vivons dans le Olam, dans le monde de l'action. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer qu'on vive dans le monde spirituel, dans un monde qui n'est pas de rapport avec l'action. Le Gaon de Vilna a dit qu'une des raisons pour laquelle l'homme a été créé dans le monde de l'action et non pas dans le monde de la pensée, c'est que dans le monde de la pensée, les contraires ne peuvent jamais se côtoyer. Ce qui est vrai et ce qui est faux n'ont aucune manière dans le monde de la pensée de trouver un point de convergence. Jamais vous pourrez dans votre pensée faire joindre le vrai et le faux, le bien, le mal, la droite et la gauche. Alors que dans le monde de l'action, le méchant et le bon peuvent se côtoyer. L'action elle-même, elle peut être neutre et elle peut contenir le vrai et le faux, la gauche et la droite, le méchant, le bon, ce qui n'existe pas dans le monde de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui n'est pas celle de la définition des choses, mais qui est celle de l'action. Dans l'action, on peut faire s'élever le mauvais à un degré qui peut être celui de la bonté. Dans le monde de la pensée, c'est impossible, parce que c'est un monde de concepts. Et les concepts ne peuvent pas ni se travailler, ni se joindre. Le monde de l'action, ça permet à ce que le plus mauvais vive avec le plus bon. Et que l'un est une possibilité d'avoir une résonance sur l'autre. Ça, c'est la possibilité du monde de l'action. On ne peut s'élever que s'il y a maaseh, s'il y a acte. Dans un monde de la pensée, on ne peut même pas imaginer un changement, puisque le concept ne change jamais. Ce qui est bon, ça reste bon. Si ça devient mauvais, c'est un nouveau concept. Mais ça n'est pas le même. alors que dans le monde de l'action, dans le monde de la personne, de la matérialisation des choses, l'homme le plus mauvais peut devenir le meilleur parce qu'il sera au contact du bon. Alors que ça n'est pas vrai, ça ne devrait pas être comme ça. Si le monde de l'action, c'était le monde de la pensée, ce qui est bon et ce qui est mauvais ne se côtoieraient jamais. Mais dans notre monde, qui est le monde de l'action, ils se côtoient, ce qui fait qu'il y a des interférences entre les deux. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui existe dans le monde de l'action. C'est que toute pensée, à partir du moment où elle est stoppée devant un événement, devant une agression, devant un refus, elle est obligée de se soumettre. Dans le monde de l'action, une pensée qui a été soumise par l'action peut encore exister. On va expliquer comment. C'est vrai que Yitzhak était en vie. Mais il avait accepté de mourir. Est-ce que quelqu'un qui est en vie mais qui a accepté de mourir, lorsqu'on dit qu'il est en vie, il est dans la même vie que celui qui n'accepte pas de mourir? C'est ça le sens de Afaroshel Yitzhak Tzabur Al-Gabé Amisbeak. En vérité, Yitzhak est mort. La cendre, elle est là. Ah, il n'est pas effectivement mort. Celui qui est mort, c'est le bouc qui a été passé à sa place. Mais Yitzhak est quand même mort. Ça veut dire qu'il a pu éprouver. Et il a pu changer au point que la façon dont il va vivre après l'Akedat Yitzhak, on pourrait même dire la façon dont le monde entier vivra après l'Akedat Yitzhak, il y a quelque chose qui ne ressemble plus à la vie telle qu'elle était avant l'Akedat Yitzhak. On ne va pas dire que c'est la vie de celui qui vit malgré lui. Mais on va dire que c'est quelqu'un qui vit une vie que Dieu lui a donnée et pas la sienne. Et on va expliquer pourquoi. Chacun de nous a reçu la vie sans la vouloir. Mais chacun y a trouvé son compte de façon à ce qu'il n'a pas besoin de ce repère pour vivre. Je n'ai pas besoin à chaque instant de me dire que comme le bon Dieu m'a donné la vie, et que c'est un cadeau formidable, je ne vais pas le refuser, je vais la vivre. Je me suis si bien adapté à ces situations-là que si on venait à me l'ôter, je lui reconvote ma vie, alors que ce n'est pas la mienne, puisqu'on me l'a donnée. Je répète. Une vie que quelqu'un m'a donnée et que je suis obligé de vivre. J'y ai trouvé de si bonnes conditions. Je me suis si bien adapté que je l'appelle ma vie. Comme si c'est moi qui me l'avais donné. Et si on veut un jour me la retirer, je comprends qu'on n'ait pas affaire au bon Dieu, pourtant c'est lui qui me fait vivre, mais qu'on ait affaire avec moi. Celui qui a dû vivre l'expérience de Yitzhak, c'est plus sa vie, puisqu'il l'a donné la sienne. C'est devenu comme c'était la vie qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, sur l'autel, ce n'était pas les cendres du Haïl, du Bouk, c'était Afaroshel Yitzhak Tzabur Al-Gabé Amizbeak. C'était la cendre de Yitzhak. Ça veut dire que la vie de Yitzhak, qui était la sienne, celle qu'il s'était appropriée, qu'il s'était recréée, celle-ci, ses cendres étaient sur l'autel. Qu'est-ce qui lui restait? La vie que Akadosh Baruch Hu lui avait donnée. C'est comme si nous nous demandait de vivre le Shem Shamayim. C'est trop demandé. On ne peut pas demander à quelqu'un de vivre le Shem Shamayim. On peut demander à quelqu'un de faire un effort, le Shem Shamayim. Je vais faire un effort sans que j'en ai aucune compensation. c'est pas pour moi. Je fais un don entier. Mais de vivre le Shem Shamaïm, c'est trop. Pourquoi ? Parce que chacun conçoit qu'il n'est pas attaché à la vie parce que c'est une mitzvah, bien qu'il ait écrit au Bacharta Bachaïm, tu choisiras la vie. Mais c'est un commandement qui pour nous est superflu si on le prend sur le terrain du pshat, ou Bacharta, tu choisiras, tout le monde choisit. À chaque instant, on a choisi. On n'a pas besoin que le bon Dieu nous dise. La preuve en est que plus on s'écarte du bon Dieu et plus on aime la vie, de toute façon. Donc on n'a pas besoin d'un ordre pour vivre. Yitzhak, il faut croire qu'il avait besoin d'un ordre pour vivre, puisque Dieu a dit « Al-Tashler Yadcha El-Anar » Il a donné un ordre. Et c'est à ce moment-là qu'Yitzhak a vécu. Sans cet ordre-là, Yitzhak n'aurait pas survécu. On va voir du point de vue d'Avram. Avram Avinu, le Midrash nous dit qu'il a pris ce haï, il a pris ce bélier, et il l'a amené en sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les avodot, les actes du sacrifice. Le fait de faire la shrita, l'aspersion du sang, le fait de brûler. Et que ce qui a marqué dans le verset, Tachat Beno, va y aller ou le hola, il l'a mis en sacrifice, Tachat Beno, à la place de son fils. Pourquoi était marqué à la place de son fils? C'est pas la place. Parce que, à chaque instant, il disait que ce que je suis en train de faire, ce soit considéré par Dieu comme si j'avais sacrifié mon fils. Alors là, une question se pose. Imaginons-nous qu'on ait reçu un ordre pareil. En vérité, on n'arrive pas à l'imaginer, on va imaginer l'autre. Nous, on ne peut pas s'imaginer. Mais imaginons que notre voisin il a un ordre pareil. Le voisin, il est sûr que si on lui dit Al-Tashker Yadcha El-Anar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va foncer au bistrot et il va offrir la tournée. On l'a libéré de quelque chose d'énorme, de quelque chose d'impossible. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Avraham? Il aurait dû faire le Chai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shrita et a dit que ce soit considéré comme si c'était la shrita de mon fils. Alors on dit quoi? Tu persistes et tu signes? Dieu t'a dit de t'arrêter, arrête-toi. Abraham, il avait bien compris une chose. Que Dieu lui a dit de s'arrêter parce que l'acte est impossible. Mais la pensée doit être possible. La preuve, c'est qu'on lui a demandé de le croire. Et il l'a cru jusqu'au dernier moment. Ça veut dire que dans la Kelat Yitzhak, ce qui est impossible, c'est l'acte. Ça n'est pas la pensée. Une pensée impossible, dans le domaine du spirituel, dans le domaine de la pensée, elle s'annule, elle tombe. Une pensée impossible dans le domaine du Maasé, dans la vie où les actions sont possibles, elle peut perdurer à travers un autre masse. Et la pensée reste exacte. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il a vraiment sacrifié son fils en sacrifiant le bélier. Dans le Olama Maasé, dans le monde de l'action, c'est possible. Ça veut dire qu'une pensée fausse peut être vraie. Dans le Olama, dans le monde de la pensée, une pensée est fausse ou elle est vraie. À partir du moment où on dit ça marche plus, ça marche plus. Ça va très très loin, ça. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le shofar de Rosh Hashanah, il y a une halakha spéciale. C'est que Rosh Hashanah s'appelle Yom Teruah, le jour de la Teruah. Le mot Teruah, c'est un mot qui veut dire briser, casser. On a une fois dit que le mot ra, le mal, vient du fait que le mal, c'est un bien qui s'est cassé. C'est pour ça qu'il est mal. Le mal en soi, ça n'existe pas. C'est un bien qui n'arrive pas au bout. Il est cassé, alors c'est mal. Mais pour nous, il n'existe pas quelque chose dans la création qui s'appelle mal. La définition du mal, c'est le bien qui n'arrive pas à son terme. ce qu'on appelle le mal. C'est pour ça que le mot ra vient du mot roa, qui veut dire briser, casser. Il faut faire très attention, parce que le mot réa, qui veut dire ami, prochain, vaavta le réacha, vient aussi du mot roa, qui veut dire casser. Parce que casser veut dire diviser, et qu'on ne peut avoir de prochain que s'il y a un tout qui est divisé en parts. S'il n'y a pas de tout, il n'y a pas de réara, il n'y a pas de prochain. Je ne peux pas regarder l'autre comme mon égal si on n'est pas vu par Dieu comme un tout. Où chacun est une partie de ce tout. À ce moment-là, on est égaux. Mais on ne pourra jamais être égal si on n'a pas une référence qui est celle de Dieu. Aucune loi, aucune morale, aucune équité au monde n'arrivera à prôner l'égalité, parce que cette égalité ne sera basée que sur une réalité. Et la réalité, elle est inégale. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, il y en a un qui est plus beau que l'autre, il y en a un qui est plus gentil que l'autre. La réalité, elle ne peut pas baser une éthique. Il n'y a que la métaphysique qui puisse baser une éthique en disant que l'autre est ton égal aux yeux de la volonté divine. Parce que vous êtes tous les deux une part de cette volonté. C'est pour ça que le mot réara, ton prochain, ça vient aussi du mot roa, qui veut dire casser, diviser. Maintenant, la loi orale nous dit que cette roa, cela correspond à quelqu'un qui pleure. Il y a deux pleurs. Il y a un pleur qui est long et entrecoupé. Nous l'appelons les chevaris. 301 fois, 302 fois, 303 fois. Ça s'appelle chevaris. Et il y a le son qui est sec et coupé. Ça veut dire quelqu'un qui pleure en sanglotant, où il y a 9 sons coupés, nous l'appelons nous Teroua. La vraie Teroua, ça peut être les deux. Mais en tout cas, la façon de sonner la Teroua, c'est en imitant le pleur. Tout le monde sait que dans les Sfarim, on pose la question de savoir pourquoi est-ce que ce jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de l'homme, et qui dans la Torah s'appelle Yom Teruah, le jour où on sonne le shofar, et on sonne le shofar pour reconnaître cette création et reconnaître la royauté de Dieu sur le monde, pourquoi est-ce que la Torah l'a fait correspondre au Yom Hadin, au jour du jugement, qui est le premier Tishri? C'est une Mishnah dans le premier chapitre de Rosh Hashanah où il est écrit Be'echa betishrei Kulam ovrim le fanav qui venait marom. Chaque personne passe devant Dieu qui venait marom comme les brebis sous la houlette. Chacun doit rendre des comptes. Chacun est remis en cause. Quel est le rapport avec Zehayom Trilat Maasecha? C'est le jour de la création de l'homme, la création du Maaseh, de l'action. Pourquoi la Torah a-t-elle fait coïncider les deux choses? Il faut savoir une chose, que dans toute la Torah écrite, vous ne trouverez jamais mentionné Rosh Hashanah en tant que le jour du din du jugement. C'est seulement dans la Torah orale. Seulement, lorsqu'on parle de Zichronot, lorsque dans la Gemara, et c'est ce que nous répétons dans la Amida du Moussa, on parle de Zichronot, La Gemara dit Tikul fanaï be shofar, sonnez devant moi le shofar, que les shetale zichronchem le fanaï, pour que motamo votre souvenir vienne devant moi. La Gemara nous dit que c'est le jour où Dieu Yoshev be kissé Adin, il est assis sur le trône du Din, c'est-à-dire de la façon de juger la plus dure, et il est au même Mikis et Adin, au moment où sonne le son du shofar, il se lève du trône du Din, le Yoshev al-Kis et Arachamim, et il s'assoit sur le trône de Rachamim, de la pitié. Tout ça parce qu'on sonne le shofar. On va essayer de comprendre. Nous nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah. Sur quoi sommes-nous jugés? Évidemment, on est jugé selon des barèmes. Les barèmes, ce sont les mitzvot de la Torah, la conscience universelle. Ce sont ça les barèmes. Tout n'est pas marqué dans la Torah. Il y a des choses on n'a pas besoin de dire. Ce qu'on appelle le Derech Eretz, la façon dont on doit se déplacer dans la société. La façon dont on doit agir et que la conscience humaine dit d'agir. De ça nous sommes jugés. En cela nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah. Nous nous avons dit que dans chaque faute, chaque fois qu'un homme se permet de transgresser, on va dire, de sauter au-dessus d'une barrière, de prendre sur lui d'être dans la situation de l'interdit, c'est que parce qu'il trouve une solution à quelque chose qui l'agresse ou à quelque chose qui le perturbe. Même celui qui faute par envie, c'est parce que cette envie, c'est une agression telle qu'il se juge en droit de céder à l'envie. Ça veut dire qu'il existe un problème chez l'homme. Qui est celui de faire correspondre sa vie, ses actes, avec ce qu'il pense devoir être son action, mais qui en fait a réagi par réaction à une agression, à un phénomène, à une histoire dont il s'est senti obligé d'agir par réaction. En cela, chaque faute, on a dit que c'est une résurgence de la faute du mot d'ordre. Mais ça va plus loin que ça. Nous avons dit que dans la Akedat Yitzhak, dans le sacrifice d'Yitzhak, et de la part d'Yitzhak et de la part d'Abraham, il y avait un décalage entre la pensée et l'acte qu'il faisait. Que la pensée pouvait se situer au-delà de la première pensée grâce à l'acte. Si on essaye de réfléchir à ça, c'est vrai que nous ne sommes jugés que sur nos actes. Mais à travers nos actes, nous sommes jugés, nous-mêmes, c'est-à-dire notre façon d'agir, le jugement vient pour remettre au même niveau. L'action et la réaction. Mais il est possible que même à travers la réaction, et peut-être même au même moment où je commets la faute, il reste toujours quelque chose de l'action en moi. Le rabbi de Kotsk un jour a dit, un juif, au moment où il commet la faute, il pense déjà à la tchouva. C'est-à-dire que c'est vrai que l'action m'engage. C'est vrai que je suis jugé sur mes actions. C'est vrai que je ne dois pas agir en réaction, mais je dois agir comme si j'étais au-dessus de tout, comme si je pouvais faire face à tout. Mais il en reste que même à travers l'action, même si cette action ne reflète pas exactement qui je suis, elle ne brise pas entièrement la conscience ou la personnalité ou l'action qui devait être la mienne. C'est là où se situe la frontière, vous avez tout de suite compris, entre le din et le rachat. Le din, c'est le prendre en... On éclaire ce que tu as fait. Tu as fait ça ou tu ne l'as pas fait. Ça, c'est le din. Le rachamim, c'est de regarder au-delà de l'action. Qui suis-je resté pendant cette action? Et c'est là que commence le problème de la tchouva. C'est par là que peut s'amorcer ce qu'on appelle la tchouva. Parce qu'il est toujours resté, au-delà de l'action, une partie de la personne qui n'est pas vraiment engagée dans la foi. Si vous êtes demandé un jour quels sont les cas de la vie où un homme pleure, ce sont toujours les cas où l'intérieur n'arrive pas à s'adapter à l'événement ou à l'agression extérieure, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. Chaque fois que quelqu'un est inadapté à une agression de l'extérieur, il y en a qui pleurent devant des beaux tableaux, l'art doit les agresser d'une façon puissante. Chaque fois que l'intérieur est inadapté à la situation qu'on vit, le corps réagit par les pleurs. Le chauffard, lorsqu'on l'entend, on doit entendre quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui est brisé, pourquoi? Parce qu'en lui, il existe la faute, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Mais en fin de compte, je ne suis pas entièrement celui qui a fait ça. Au-delà de la faute, perdure encore celui que je suis. Au-delà de l'agression extérieure, au-delà de l'événement que je vis, perdure encore celui que je suis. Je ne suis jamais vraiment, vraiment adapté à ce que je vis. Il reste toujours quelque chose qui est la personne. C'est comme ça qu'on peut comprendre que les Chachamim appellent la Tchouva et la définissent dans la Halakha de la façon dont on doit la sonner à l'adaptation aux pleurs. C'est-à-dire que celui qui se juge, c'est par là que s'amorce la Tchouva. Il est vrai que c'est facile de se trouver des circonstances atténuantes et de dire je ne suis pas vraiment celui qui a fauté, je suis tout quelqu'un d'autre. Il en reste que par rapport à l'extérieur, c'est surtout celui qui a fauté qui est intéressant, pas tellement celui que tu es. Quelqu'un m'aborde dans la rue, me donne un coup de poing, qu'il ait de bonnes intentions et qu'il ait fait tchouva avant de donner le coup de poing, ça ne sert pas à grand chose vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire dans le rôle à mama assez. mais ça permet la tchouva. Parce qu'il existe une autre réalité. Même lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, arrête, il a quand même dit continue. Il y a une autre réalité. Le monde de l'action, et nous devons nous juger par rapport à l'action, ne met pas en cause la personne dans sa pensée qui est profonde. Et puisqu'elle ne la met pas en cause, mais elle n'agit que sur sa responsabilité, il peut exister ce que nous appelons la tchouva. Il peut exister ce que nous appelons le din. C'est-à-dire que le din, c'est le fait d'ajuster ses réactions à ce qui devrait être du domaine de ce que nous concevons être l'action, sans aucune dépendance de ce qui peut arriver dans la vie. Si on arrivait à ça, il n'y aurait pas de faute. Mais on n'arrive pas à ça. Mais bien qu'on n'arrive pas à ça, on reste quand même celui qui ne faute pas. Il faut aller le chercher loin. On pourrait imaginer qu'il n'existe plus, qu'il est entièrement détruit. Et on peut l'imaginer, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Kol Israël yeshlaim chelek l'olam haba, chacun a une part au monde futur, ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba. Mais voici ceux qui n'auront pas de part au monde futur. On peut tout casser, on peut tout détruire. C'est là où il n'y a plus de place pour la tchoua. Mais le normal fait qu'il reste une place pour la tchoua. C'est-à-dire que j'accepte d'être défini par l'autre. Même si l'autre c'est Akadosh Baruch Hu, j'accepte d'être défini par mes actions. Mais je n'accepte pas qu'on me dise que ça s'arrête là. C'est ça la force de la tchoua. C'est ça la force du din. Vous savez qu'un jour on a demandé au nom de Rabbi Israël Salanter, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas fait le contraire? D'abord on aurait dû faire le Yom Kippour, où l'homme fait tchouva, l'homme se remet en cause, et après on fait le din, on fait le jugement. Nous on fait le contraire. Rosh Hashanah c'est le jour du jugement, et après on rattrape le coup par la tchouva. Lui répond, il dit c'est très simple. C'est que le jour de Rosh Hashanah, l'homme doit comprendre que c'est le din. Il doit se juger lui-même. Comment peux-tu savoir sur quoi tu dois faire tchouva si tu n'as pas devant toi le jour du jugement? Le din, c'est de retrouver quel est celui qui est derrière ses actions. De même qu'Avraham Avinu s'est retrouvé comme étant celui, et la même chose Yitzhak, comme avant qu'on lui dise Altachler Yad Khelanar, après il était le même. Nous aussi. Et c'est ça les Zichronot, chez Yale Zichronchem, votre souvenir. Ça veut dire qui vous êtes. C'est ça qui est important. Ce que vous faites, c'est moins important. Évidemment, c'est très important. Évidemment, du point de vue de la responsabilité, c'est important. Mais il restera toujours quelque chose que l'action ne pourra pas pourrir. C'est ce qu'on appelle la midat harachamim. Prendre en cause la personne. C'est pour ça que dans le bedin, dans le tribunal sur la Torah, il n'existe pas de rachamim, il n'existe que le din. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse prendre en compte ce qu'il y a au-delà de l'action. Parce que pour l'homme, ça n'existe pas. C'est pour ça que la responsabilité, c'est une responsabilité qu'on peut appeler civile. Moi, je te regarde en tant que citoyen. Je ne te regarde pas en tant que conscience. Ta conscience, elle m'intéresse peu. On doit rendre compte de ses actes, pas de sa personne. Mais ça, c'est vis-à-vis de l'homme. C'est vis-à-vis de celui qui vous juge, le Beit Din. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait autre chose. Mais ça, c'est si on est capable de se juger. L'homme parfait, ce serait celui qui a une idée et dans toute sa vie continue selon son idée, comme Avraham Avinu, Yitzhak, on continue selon leur idée avec le haïl, avec le bélier. Il n'y a jamais de réaction. On t'annonce une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton fils. Tu n'as pas besoin de mourir. Va au bistrot. Ça, c'est la réaction. La réalité n'a pas changé la nature de celui qui était prêt à faire ce qu'il pensait devait faire, de devoir faire. Ça n'a rien changé. Alors, ça n'a rien changé. Pourquoi agir en réaction ? C'est pour ça que la faute, elle est appelée par les Chachamim Issourim. Issour. On a transgressé un Issour. C'est comme celui qui est lié, Assour. Assour en hébreu veut dire lié, ligoté. Ça veut dire que tu as agi par réaction. Tu t'es laissé emprisonner par l'événement. Alors que c'est le fond qu'il faut travailler. Comme ça, on peut comprendre ce verset. Adcha melerbim sibo nirdida tanrecho. Le jour où Dieu a donné la Torah, le peuple d'Israël s'est déjà cru assez malin pour savoir comment il pouvait remplacer ce que Dieu lui donnait. C'est-à-dire qu'il a agi en réaction. Il y a un problème, on va trouver une solution. Ne te laisse pas mettre en cause par le problème. Il y a une question. Un juif, c'est celui qui sait vivre avec une question. Il n'a pas de solution. C'est de ça, nous dit le verset, que nous sommes redevables à Kadosh Baruch Hu de son attitude vis-à-vis de nous. Et nous-mêmes, c'est pour ça que la Gemara, lorsqu'elle amène ce verset, elle dit, maintenant sache, Tanou Rabbanan, nous Chachmei nous enseigner, Hanenavim Venamolvim, ceux qui savent encaisser sans répondre, ils peuvent arriver à mettre un Smechim Beissourim. Ils sont heureux, même dans la tourmente. Pourquoi ? Parce que aussi, mais Ava. Là, on en arrive à ce que ça veut dire Ava. En français, on traduit ça par amour. En hébreu, l'éhov, aimer, ça veut dire prendre en compte l'autre et ne pas se prendre en compte soi-même. Lorsque j'aime quelqu'un, ça veut dire que je suis attentif. Peut-être rien qu'au moment où je l'aime, je n'ai pas obligé d'aimer tout le temps, mais au moins à ce moment-là, je suis attentif à lui et non attentif à moi. On ne peut pas faire ce que l'autre veut et ce que soi-même on veut, on ne peut pas le faire en même temps. Ava, c'est cette attitude-là. C'est pour ça que lorsqu'on dit Va'avta et Hashem Lokecha, tu aimeras. En France, c'est le mot aimer, c'est un peu déplacé. Parce qu'on n'imagine pas comment on peut aimer celui qu'on ne connaît pas. Mais ça veut plus dire tenir compte de que aimer. Aussi Me'ava. Ça veut dire qu'un homme doit pouvoir rester dans sa ligne de conduite qui est de tenir compte de. C'est comme ça que la Gemara comprend ce verset-là. On va juste compter le verset suivant. Tsror Amor Dodi Ben Shadayali Motamo Tsror. Tsror, le vrai mot académique en français, c'est le faisceau. Mais Tsror, ça veut aussi dire le bouquet. Amor, mort, c'est un parfum. Dodi, mon ami. Dodili, c'est-à-dire mon ami, celui qui est ami vers moi, Ben Shaddai Yalin, motamo, il dormira, il reposera, Ben Shaddai en mon sein. Vous avez tout de suite compris de quoi il s'agit. C'est qu'après la faute du Vaudor, Dieu a donné l'ordre de construire l'Ohel Moed, c'est-à-dire que la présence divine réside dans le peuple juif. On se serait attendu que ce soit le contraire. Que Dieu dise, bon, vous avez choisi un veau, gardez votre veau. Immédiatement après la faute du veau d'or, a été donné l'ordre de construire l'Ohel Moed, qui est devenu après le Beth Amikdash, c'est-à-dire l'endroit où on peut percevoir une présence divine. Tsror Amor Dodi, c'est-à-dire un bouquet de parfums. Dodili, Dieu s'est révélé vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il a résidé au milieu de moi. Ben Shaddai Yanin. Prenez le verset d'après, c'est encore la même idée. Là, on continue la prochaine fois parce que c'est un petit peu plus difficile. Eshkol HaKofer Dodili. Eshkol, une grappe. HaKofer, le Kofer, c'est un parfum. Dodili, mon ami est vis-à-vis de moi. De Karmé Engedi, comme le Kofer que tu trouveras dans les vignes de Engedi. Pourquoi avoir utilisé ce mot Kofer, qui veut dire en vérité kapara, Kofer ça veut dire rachat, pardon, et Eshkol veut dire agra. Chaque fois qu'il est écrit le mot Eshkol dans la Torah, les Chachamim nous disent de décomper le mot. Eshkol, Aleph, c'est Ish. Shin, Kol, Shehakol. C'est-à-dire l'homme qui arrive à son plus grand degré. Mais ça, c'est au niveau de la compréhension du verset, la traduction. C'est pratiquement la même que le verset d'avant. Eshkol HaKofer Dodili, une grappe de Kofer. Ce sont des herbes qui donnent une odeur qui s'appelle le Kofer. Dodili, Dieu est vis-à-vis de moi, c'est mon ami, de Karmé Engedi. Comme ce que tu trouves, de Karmé Engedi, Rashi dit, pourquoi les Karmé Engedi? Parce qu'il y a là-bas des arbres qui donnent des fruits 4 ou 5 fois par an. Vous avez sûrement des questions à poser. On peut peut-être dire ça, mais c'est péjoratif. Ça voudrait dire que c'est une nécessité. Les Chachamim, quand ils disent que le afar du haïl, la cendre du bouc, c'est la cendre de Yitzhak, ça voudrait pas dire ça. C'est un problème psychologique d'Avraham Avinu.
C'est deux choses différentes.
C'est vrai. En vérité, ça existe. C'est vrai que ça existe. Non, je vais vous dire hein, ce qu'il y a, où on retrouve cette idée-là. Il y a marqué, puisque la Torah, juste après la paracha du sacrifice d'Yitzhak, parle de la mort de Sarah. La Gemara dit, pourquoi est-ce que la Torah a lié les deux? Parce que le Satan est venu chez Sarah et lui a dit, ton fils Yitzhak, on l'a amené sur un autel, on a pris un couteau, et au dernier moment, on s'est arrêté. Alors, de peur, elle en est morte. Vous savez que quand les Chachamim emploient le terme de Satan, c'est pas quelque chose d'extérieur, parce que la Gemara dit « Hua Satan, Hua Yetzerara ». C'est le mauvais penchant. C'est-à-dire que finalement, Sarah, lorsqu'on lui a annoncé l'histoire d'Yitzhak, elle a eu tellement peur qu'elle en est morte. Alors, il faut croire que l'épreuve, c'était pas pour Sarah, puisqu'elle en est morte. C'était que finalement, Abraham, il s'est retrouvé avec la mort sur les bras. C'était pas Yitzhak, mais c'était Sarah. Où est-ce qu'on a trouvé qu'on éprouve quelqu'un après l'action? Le Yetzer, ça veut dire l'épreuve. On peut éprouver quelqu'un avant l'action. Mais pourquoi l'éprouver après l'action? C'est ce que nous disons dans l'HQV, nous, ve aser Satan, milfanenu devant nous, ou meacharenu et derrière nous. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a réussi dans quelque chose, immédiatement après, il se demande si ce n'était pas plus malin d'avoir fait autrement. Ça, c'est le Yetzirah d'après. Parce que de même qu'avant l'épreuve, c'est difficile, après l'épreuve, c'est aussi difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est très simple. Parce qu'au moment où un homme se dépasse, il n'est pas exactement lui-même. C'est ce qu'on appelle le Yetzirah, il a dépassé quelque chose. Après, il faut qu'il apprenne aussi à redevenir lui-même. Parce qu'on ne touche pas les dividendes tout de suite. Ça, c'est difficile. Ça veut dire qu'il y a une épreuve après l'action. Je ne sais pas si elle est équivalente à celle qui est avant l'action. Peut-être chez certains, oui. C'est qu'il faut aussi assumer ce qu'on a fait. Parce que rien que le souvenir de ce qu'on a fait, ça peut vous faire regretter de l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir adapter sa personnalité à sa pensée. Et une fois la pensée a triomphé, mais la personne n'a pas changé pour autant. Ça met du temps. Ce temps-là, c'est une mise à l'épreuve qui peut être équivalente de la mise à l'épreuve d'avant. Alors, on pourrait dire que c'est pour cette raison qu'Abraham, il avait peur de ça, alors il s'est mis à sacrifier le bouc. Bon. Moi, ça ne me plaît pas trop comme idée, parce que ça voudrait dire que en pratiquant le subterfuge, on se donne l'illusion de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que de prendre un bouc qui s'est fait attraper dans les ronces et de le sacrifier, c'est facile. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore une autre idée. Vis-à-vis de la mitzvah, lorsque quelqu'un est devant une épreuve, il est normal que lorsqu'il a triomphé, il soit content. Mais est-ce qu'après, il est dans la situation où il préfère que l'épreuve ait eu lieu, ou il aurait préféré que l'épreuve n'ait pas eu lieu?
Les avis sont partagés.
Alors la Torah, je vais vous dire ce qu'elle dit. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés en Eretz Israël, on a mis 6 tribus sur le mont Gerizim et 6 tribus sur le mont Eval. Et à la fin, avec tous les brachot et tous les klalot, on a dit Baruch Asher Yakim et Divrei HaTorah Hazot. Soit béni celui Asher Yakim qui le relèvera, qui mettra son pied et Divrei HaTorah Hazot, les paroles de cette Torah. De l'autre côté, on a dit Arur Asher Lo Yakim et Divrei HaTorah Hazot. Maudit soit celui Asher Lo Yakim. Le Sifri, le Midrash Agada demande, qu'est-ce que ça veut dire, le Hakim et Divrei HaTorah Hazot? Il dit comme ça. Afilu Asa, ve Shamar. Si quelqu'un a pratiqué toutes les mitzvot positives et a résisté à toutes les mitzvot négatives, Lishmor, ça veut dire ne pas faire. De toute la Torah, ve lo kiyem, mais il ne l'a pas maintenu. Velo Irzik, il ne l'a pas tenu. Arezé Barou. Le contraire. Michelo Asa. Quelqu'un qui n'a rien fait. Velo Shamar, il n'a rien gardé. Velo Irzik, mais il a soutenu. Arezé Barou. Asher Yakim et Divrei HaTorah. Alors attention. C'est vrai que l'interprétation de l'arzik, ça veut aussi dire faire des dons aux institutions. C'est vrai. Mais ça ne veut pas seulement dire ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait rien, mais il veut que ça existe. Et il y a quelqu'un qui fait tout, mais il aurait nettement préféré que ça n'existe pas. Celui qui ne fait rien, puisqu'il veut que ça existe, il n'est pas Be'arour, il est Be'barour. parce que c'est vrai qu'il fait rien. Mais il veut que ça existe. Alors que l'autre, il est capable de tout faire, mais il voudrait que ça n'existe pas. Avraham Avinu, après la Akedat Yitzhak, il aurait pu avoir la tentation de celui qui a tout fait, mais il aurait aimé que ça n'ait pas existé. Puisqu'il a pris le Haïl et qu'il a dit, ça c'est à la place de mon fils Yitzhak, il a montré qu'il a préféré que ça ait existé. Comme ça les Chachamim disent à propos d'Avraham Avinu. Que lorsqu'il a pris le haï, il a pris le bouc, il a été mekim et livré à Torah Azot. Après l'épreuve, il aurait pu fuir. Ça y est, les vacances. On a assez travaillé, il n'y a pas de raison. On aurait préféré que ça ne soit pas. Vous savez, en hébreu, on dit aussi, il y a une expression, Hayatov, Vetov, Shayat. C'est vrai que c'était bien, mais c'est bien que c'est passé. Ça fait du bien qu'on en ait plus dedans. Ça s'appelle Abou Rachaloua qui médite la Torah Azot. Bien qu'il ait pu faire toutes les méthodes de Torah. Donc c'est déjà plus valorisant pour Avraham Avinu. Et ça fait comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Vaser Satan enlève le Yetzara, Milfanenu lorsqu'on est devant l'action, Miacharenu lorsqu'on est après. Parce que lorsqu'on a réussi, on préfère se dire ça aurait été plus simple si on m'avait rien demandé. Ah, ça aurait été plus simple. C'est qu'il n'a rien compris. On peut faire toutes les mitzvot de la Torah et garder toutes les mitzvot négatives en transpirant la douleur et la difficulté et en maudissant le jour où on est né juif. Et on peut tout faire. Ça s'appelle Arour. Mais encore une fois, je ne sais pas si les Chachamim sont venus à dire que c'est bien de ne rien faire, mais de soutenir. Mais en tout cas, ils ont dit que c'est mieux que de tout faire et de ne pas soutenir. Ouais.
L'interaction entre l'action et la pensée. L'action et l'être. L'action dit, l'être, la famille. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le temps, interaction ?
Attention, l'être, c'est pas la famille. La prise en compte de l'être.
La prise en compte de l'être, oui. Est-ce que dans le temps, il n'y a pas interaction entre l'action et l'être ? Qu'à la fin du compte, d'abord, de faire la certitude d'action, on risque de modifier l'être. C'est une question.
Oui, non seulement on risque de modifier, mais on le modifie.
Est-ce que c'est vieillard de faire une dichotomie entre l'être et l'action ?
Moi, j'ai parlé en tant que jugement de la personne.
À un moment donné.
J'ai parlé en tant que jugement de la personne. C'est-à-dire qu'on peut juger quelqu'un, et qu'on voit que ses actions sont telles et telles, mais que lui ne correspond pas entièrement à ses actions. C'est de là que peut venir la tchoua. Parce que s'il correspond entièrement à ses actions, d'où va venir la tchoua ?
Si son être,
vous êtes en train de parler d'autre chose, c'est de l'évolution de l'être pendant la vie.
J'entends, mais la question, je la reboucle, et je dis, quand je juge quelqu'un sur l'action d'hier ou aujourd'hui, est-ce que je le juge par rapport à son être d'aujourd'hui, d'hier ou de demain ?
Toujours par rapport à l'être d'aujourd'hui.
L'être au moment de l'action.
Au moment de l'action.
T'es
Ba'asher
ou
Sham. Il y a marqué à propos d'Ishmael, Ba'asher ou Sham. On savait que ça allait devenir un rajah, mais on l'a jugé tel qu'il était au moment. On n'a pas le droit de juger par rapport à ce qu'il va être, et il est évident qu'on n'a pas le droit de juger par rapport à ce qu'on était, sinon ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer.
Alors, dans ce cas-là, comment on joint ça avec le Ben Sorer et Moré ?
Voilà, c'est l'exception. Le Ben Sorer ou Moré, c'est celui à qui on ne fait plus crédit, parce qu'il en a trop fait. C'est l'inéluctable. C'est pour ça que les Chachamim disent, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la Machloket dans la Gemara dans Sanhedrin. Parce qu'il y a une grande Machloket. La Gemara dit comme ça. Ben Sorer Umore, lo haya velo nivra. Le Ben Sorer Umore, l'homme qu'on condamne à 12 ans et demi, qu'on tue à 12 ans et demi par le Bédine, parce qu'il menace la société, il n'a jamais existé. Il ne s'est jamais arrivé dans le peuple juif qu'on ait condamné à Ben Sorer Umore. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, Ani Yashavti al Kivro. Non seulement il a existé, mais je me suis trouvé devant sa tombe. Donc je l'ai vu celui-là. Tout le monde demande, il n'existe pas de sorte de discussion pareille dans l'Agma. Il y en a qui peut dire, il n'a jamais existé. L'autre peut dire, il a existé. Il a mis une preuve d'inversé. Mais une fois que Rabbi Meir te dit, j'ai vu sa tombe, il n'y a plus de discussion. Alors pourquoi est-ce qu'on amène l'opinion des Chachamim qui disent que le Bensor n'a pas existé? La réponse, elle est très simple. Je ne sais pas si elle est juste, mais elle est simple. Les Chachamim viennent dire, voilà, il n'est jamais arrivé qu'on puisse remarquer sur quelqu'un qu'à 12 ans et demi, ce soit inéluctable qu'il soit une menace sur la société. Vient Rabbi Meir, il dit, on peut très bien le remarquer. Le Bédine ne l'a pas remarqué. Mais en fin de compte, il a été obligé de le tuer quand il était grand. Ani Hashav Tial Kivron. En vérité, on peut le remarquer. C'est vrai que dans l'histoire, le Bédine ne l'a peut-être pas remarqué. Mais on peut le remarquer. La preuve, c'est que moi j'ai vu quelqu'un à 12 ans et demi, j'ai dit celui-là, vous allez voir. Et après, le Bédine l'a condamné. Si c'est ça la machloquette entre Rabbi Meir et Chachem, on comprend très bien. Les Chachem disent, voilà, la Torah t'a donné un exemple, voilà ce qui peut arriver. Mais en vérité, dans la réalité, c'est impossible de le déceler. Rabbi Meir dit, c'est tout à fait possible de le déceler. Le fait qu'on n'ait pas décelé, ça s'est retourné contre la société. Donc on a été obligé de le tuer après qu'il ait commis un meurtre. Si on l'avait tué avant, au lieu qu'il y ait deux meurtres, il y aurait eu. Donc il y ait deux morts, il y aurait eu un mort. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'exception, parce que les Chachamim disent, c'est impossible à déceler. Ça n'est que quelque chose de théorique. Ça, c'est l'exception. Normalement, on juge Ba'a Sherusha. C'est pour ça que le Ben Sorel, c'est un enfant. Un adulte, jamais le Bedin n'aurait pu le juger de cette façon-là. Oui. Je pense que ça n'a rien à voir. Je vais dire pourquoi. Parce que la modestie, ou de dire Vani Afar va y faire, la Gemara dans le traité d'Avodah Zara, elle veut dire, regarde la différence entre les sages d'Israël et les sages des nations. Bilam et Balak, qui n'étaient rien, eux, ils se sont crus des grands. Avraham, il a dit, Aniafar va y faire, je ne suis que poussière, je ne vaux rien. Quelqu'un, lorsqu'il dit Aniafar va y faire, ça veut dire que il ne met pas en avant son ego. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la force de faire une confiance telle à Kadosh Baruch Hu qu'il soit remis entièrement en cause, même dans sa émouna. Parce que la Kedat Yitzhak, qu'il faut savoir, le vrai Nissan, la vraie épreuve, c'est pas tuer ou pas tuer. La vraie épreuve, c'est qu'Avram Avinu, c'est celui qui est venu avec le monothéisme, en parlant du chesed, de l'amour qu'on devait porter au prochain. Alors pour lui, de tuer son fils, ça voulait dire la négation de tout ce à quoi il croyait. Et ça, même celui qui est Afar va y faire, il est obligé d'aller selon sa conscience. Il n'a pas le droit de faire quelque chose qu'il pense que c'est un acte inhumain. C'était ça le Nissan, c'est ça l'épreuve. C'est que Dieu te demande quelque chose qui sort du critère normal des possibilités d'Abraham Avinu. Ça veut dire, renie-toi et fais comme faisaient les idolâtres, fais comme celui qui va sacrifier son fils au Molech, où il faisait passer devant le feu. C'est ça le vrai Nissan d'Abraham Avinu. C'est pas, est-ce que ça lui fait mal au cœur ou pas mal au cœur. C'est un problème d'Ashkafa, c'est un problème de façon de vivre. Est-ce que je vais faire une chose qui veut dire que je suis inhumain?
Mais pardon, l'épreuve ne peut pas être au-delà de la dimension de la conscience de l'individu. Elle ne peut pas dépasser ses possibilités, sinon ça devient surhumain, et c'est en dehors de ses possibilités, et donc c'est injuste.
Voilà, c'est pour ça que la Emouna, la foi, se situe au-dessus du raisonnement humain. Là où s'arrête l'intelligence, la logique et le raisonnement, là commence la foi. La Emouna ne se situe pas du tout au niveau de la conscience. Parce que si c'est au niveau de la conscience, je peux prouver par mille raisonnements que c'est impossible de tuer un fils. Mais ça ne se situe pas ni au niveau de la logique, ni au niveau de la conscience. Ça se situe à un autre niveau, la Emouna. La Emouna, c'est une confiance. Nous, on a dit un jour que si la Emouna, c'est quelque chose de compréhensible, alors il n'y a plus d'Emouna. J'ai foi en mon associé. Seulement le jour où je le retrouve dans mon bureau en train d'ouvrir mon coffre-fort. C'est là où il faut savoir si j'ai foi en lui ou non. Mais si c'est dans les rapports de tous les jours où j'ai rien à lui reprocher, je n'ai pas foi en lui. Le jour où ça dépasse l'entendement, c'est à ce moment-là que commence l'aimé.
Mais alors, est-ce qu'il y a l'aimé uniquement personnel ou bien est-ce que c'est une interaction avec Dieu? Parce que au moment de l'action, avant l'action, après l'action, vous avez parlé. Au moment de l'action, est-ce que je suis seul en action avec ma conscience et mon émouna et sans la providence? Ou bien est-ce qu'il y a une interaction avec Dieu qui m'aide? Parce qu'à ce moment-là, est-ce que j'ai mon libre arbitre total et...
Alors je vais vous dire. Si vous prenez la Gemara dans le traité de Brachot, la Gemara dit Akol bide shamaim chutz mihirat shamaim. Le bon Dieu, il m'assiste dans tout. Dans ma santé, dans mon parnassa, dans ma famille, partout. Le jour où il s'agit de l'épreuve, je suis seul. On ne peut pas être assisté tout le temps.
Et on ne peut pas être jugé si on n'a pas été seul.
Absolument. C'est pour ça que le rachamim, ce n'est pas vraiment la vérité. Tout le monde le sent. C'est une autre vérité. C'est une vérité qui prend en conscience l'avenir de l'homme. Ce n'est pas une vérité qui prend en conscience son présent. C'est notre vérité. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. C'est que normalement, lorsque quelqu'un met un autre devant l'épreuve, il le met en condition d'échec pour voir s'il va réussir. Il dit qu'il y a marqué que Yetzer Adam mitgaber alav bechol yom, le Yetzer Hara de l'homme l'aurait submergé chaque jour, loulé Akadosh Baruch Hu ozro, si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas. Là, la Gemara elle apprend pas comme ça. Elle dit que Bederech Haolam, Adam amesit le chavero, quelqu'un qui veut mettre l'autre devant l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le mettre en situation d'échec. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il met l'homme devant l'épreuve, il ne le met jamais en situation d'échec. Au contraire, il lui donne toutes les armes possibles pour qu'il arrive à réussir l'épreuve. Mais la réussite de l'épreuve, c'est quand même l'homme. Akadosh Baruch Hu est seulement Ozer. Il me donne les armes. Mais il ne combat pas à ma place. Ça, c'est tout à fait un autre débat. Alors, je vais vous dire, en vitesse, je vais vous dire, ça va vous choquer, mais comme ça, vous pouvez réfléchir. Si c'est un juif, c'est considéré comme une bonne action. Si c'est un non-juif, c'est considéré comme une mauvaise action. C'est déjà un long débat. Tout dépend de l'importance qu'on attache à l'action et les références qu'on a par rapport aux actions. Quelqu'un qui a de grosses références par rapport aux actions et qui a l'habitude de soumettre sa pensée à quelque chose, on juge l'action juste par la pensée. Quelqu'un qui a l'habitude de soumettre les actions à sa pensée et ne pas être soumis à une autre pensée, c'est la pensée qui va prévaloir. Bon, c'est déjà un long débat, c'est pas en 2 minutes, mais je vous donne... Ok, tout en vous souhaitant une Shana Tova.